les jardinières.
On sort du lit de bon matin pour parler jardinage sur RJB, RTN et RFJ. Soyez les bienvenus. Léo, bonjour.
Bonjour Noélie.
Ce matin, nous sommes en compagnie de Katiou Racine. Bonjour Katiou.
Bonjour.
Katiou, vous êtes guide de randonnée nature et jardinière à Mervelier. On peut suivre vos activités sur les réseaux sociaux sous le nom de Rendez-vous avec soi-même. Merci d'être avec nous ce matin.
Les jardinières, c'est votre émission jardinage du samedi avec au programme des conseils, des astuces et des réponses à vos questions. Nous sommes ensemble jusqu'à 8h.
7h, 8h, les jardinières.
Katiou, on est à cheval entre l'été qui s'en va et l'automne qui s'installe. Beaucoup de jardiniers lèvent un peu le pied après les beaux jours. Est-ce qu'ils ont raison ou est-ce justement maintenant qu'il y a des choses intéressantes à préparer ?
Alors, on peut lever le pied parce que c'est vrai qu'en été, c'est quand même une saison qui est assez intense au niveau du potager, du jardin en général si on a une maison. Là, c'est tombé plutôt pas mal parce qu'on a eu presque une semaine de pluie non-stop. Maintenant, c'est vrai que c'est dommage. Il y a beaucoup de jardins. Si on se promène un petit peu en ville ou même dans les villages, on voit qu'il y a beaucoup de jardins dès que les jours raccourcissent qui sont laissés un petit peu à l'abandon. Et puis en fait, c'est bien dommage parce qu'il y a beaucoup de choses à faire dans le jardin. On peut prolonger les récoltes, on peut commencer de faire des petits nettoyages déjà pour ne pas avoir tout en même temps au printemps. On peut commencer à faire des aménagements aussi, on en parlera un petit peu plus tard, aménager des endroits dans le potager pour ne pas les laisser à l'abandon. On peut aussi préparer pour le printemps, donc préparer là, on parle d'imaginer peut-être une culture différente, peut-être de mettre en place des tuteurs ou des supports ou des choses comme ça. Donc c'est des choses qu'on peut faire déjà maintenant. Et puis, on peut aussi faire déjà maintenant des semis. On peut faire des semis pour l'automne et des semis pour avoir des cultures d'hiver.
Merci Katiou, vous êtes notre invité jusqu'à 8h en seconde partie d'émission. Vous répondrez aux questions de nos auditeurs, auditrices. Pour poser vos questions, trois possibilités par téléphone au 0901 70 20 20. Vous serez en direct avec nous. Vous pouvez aussi remplir le formulaire sur notre site en joignant une photo à votre question. Alors par SMS, vous tapez jardin, un espace suivi de votre question et de votre nom et vous nous l'envoyez au 939.
7h, 8h. Les jardinières.
Ce matin, Katiou, on parle du potager en ce début d'automne. Les journées raccourcissent, les nuits se rafraîchissent. Quels sont les fruits et légumes de saison qu'il faut cueillir maintenant avant qu'il ne soit trop tard ?
Alors, ceux qu'il faut vraiment et impérativement sauver du gel, ce sont tous les légumes du soleil. Donc, quand on parle de légumes du soleil, ça, c'est assez facile de se les représenter. Les tomates, les courgettes, les aubergines, les poivrons, les pommes de terre douce, les artichauts. Les pommes de terre douce, par exemple, c'est quelque chose qui est un petit peu nouveau dans les jardins. Et puis, on en trouve maintenant assez fréquemment à planter en plantons dans les jardineries. Et puis, c'est un petit peu mystérieux. Les gens ne savent pas trop comment ça se récolte par rapport aux autres pommes de terre qu'on cultive depuis bien longtemps par chez nous. Alors, un petit truc, la récolte, elle se fait plus ou moins quand les journées ont 11 heures de jour dans une journée. Donc ça fait plus ou moins mi-octobre, début octobre, mi-octobre. Quand on a 11 heures de jour dans une journée, on peut récolter les tubercules de pommes de terre douce. C'est là où elles seront le plus grandes et où elles n'auront encore pas pourri. Donc un petit truc pour ceux qui ont testé ça ces dernières années. Et puis dans le verger, là on va plutôt récolter les pommes, les poires, les raisins et puis les coings. Enfin voilà, il y a tous ces légumes qui sont légumes et fruits à récolter d'automne, c'est maintenant.
Est-ce qu'il existe des astuces ou des gestes simples pour aider les plants à tenir encore un peu plus longtemps malgré la fraîcheur ?
Oui. Par exemple, je prends la courgette parce que c'est celle qu'on voit le plus dans les jardins. L'aubergine aussi maintenant, par exemple. Ce qui est très important pour que la plante puisse continuer de fructifier encore jusqu'au gel, quand on dit fructifier, on parle de fruits, mais c'est aussi des légumes, bien sûr, on va enlever tout ce qui pourrait lui prendre de l'énergie. Ça veut dire qu'une courgette qui a des feuilles qui ont de l'oïdium, qui ont des feuilles qui sont abîmées, qui sont tachées, on va les couper, on va les éliminer bien loin de la plante pour pas que ça se propage. Et puis, comme ça, on va permettre à la plante d'avoir toutes ses forces possibles pour donner son énergie dans le légume, dans le fruit. On peut faire la même chose avec les tomates, on va couper toutes les feuilles, on va vraiment laisser quasiment finalement plus que ce petit légume ou ce petit fruit qui est en train de se développer. Et puis, chaque fois, la plante, après, refait une petite feuille, un petit légume, puis on arrive parfois à prolonger très loin ces cultures jusqu'au gel, finalement.
Et si, malgré toute notre bonne volonté, certaines cultures, elles fatiguent déjà, est-ce qu'il vaut mieux alors les laisser finir doucement ou les arracher pour libérer de la place ?
Alors, je pense que si on voit que... Ben je reprends toujours ma courgette, hein, parce que c'est le plus facile. Les courgettes prennent beaucoup de place en général. Hein, on met un tout petit planton qui fait 10 cm, puis on se retrouve avec une plante qui fait parfois un diamètre pas loin de 2 mètres. Si on voit que vraiment elle prend de la place, et puis qu'il n'y a plus rien qui se passe, à mon avis, on a meilleur temps de l'enlever, et puis de s'attarder un petit peu sur le sol. On peut remettre un petit peu d'engrais, on peut retourner un petit peu ce sol, le laisser peut-être... comme ça, ou le réutiliser pour une culture d'hiver. Mais je pense qu'on a meilleur temps d'enlever quand même.
Et quand on parle de récolte de fin de saison, est-ce qu'il y a des petits trucs pour mieux conserver les légumes déjà cueillis afin de prolonger leur consommation à la maison ?
Oui, oui, on peut tout à fait très bien conserver ce qu'on a cultivé. Par exemple, les carottes, les betteraves, les pommes de terre, on peut les mettre dans du... les carottes et les betteraves, on peut les mettre dans du sable à la cave, dans un contenant soit en bois ou quelque chose. Vraiment, ils aiment bien ce substrat pour être conservé même très très longtemps, hein, dans la cave. Sinon, on trouve aussi dans les magasins des espèces de caisses en sagex. Alors là, il faut faire attention de bien faire des trous dedans parce que c'est trop hermétique. Ça va super bien pour mettre par exemple des carottes ou bien des pommes ou des poires, mais il faut vraiment que l'air circule dans ces caisses. Donc ça, c'est important de faire des trous dans ces caisses, plutôt sur le haut. Ensuite, à la cave, à l'air libre ou sur un balcon, si ça ne gèle pas, on pourrait laisser tout ce qui est ail, oignon, pommes de terre. Donc ça sera de la conservation à l'état brut, si on veut bien. Et après, bien sûr, on peut faire de la conservation, on peut mettre en bocaux, on peut sécher... On peut congeler, donc c'est vraiment le potager, il a aussi cet avantage-là, c'est qu'on peut manger du frais pendant une grande partie de l'année, mais on peut aussi manger ses propres légumes pendant l'hiver, quand il n'y a plus de potager qui est en production.
Les jardinières.
Nous sommes toujours en compagnie de Cathew Racine, jardinière et guide de randonnée nature. Après avoir parlé des récoltes et de l'entretien des légumes en ce début d'automne, on s'intéresse maintenant à l'après-saison au potager. Cathew, qu'est-ce qu'on peut encore planter ou semer fin septembre pour profiter des récoltes cet hiver ou alors pourquoi pas ce printemps prochain ?
Il y a quelque chose à faire. On peut semer, par exemple, les épinards. C'est bon, les épinards, hein, en plus, pour faire des petits plats, nos enfants qui adorent ça. Des poireaux, de l'ail, de l'oignon, de la mâche, donc la doucette qu'on appelle chez nous, ça s'appelle de la mâche. On peut mettre des échalotes, il existe la laitue d'hiver aussi. Et puis, il y a un légume que j'aime bien, qui ne se sème pas maintenant, mais plutôt au printemps, c'est le cardon, qui est très peu connu chez nous. Il ressemblera à l'artichaut par son look, mais il aura plutôt le goût de la côte de bête. Donc c'est un grand légume comme ça, assez fier, avec des grandes épines. Et puis c'est un légume qu'on va semer ou planter, on sèmera au mois de mars-avril ou on le plantera plutôt après les saints de glace. Et c'est un légume qui se récolte pendant toute la période hivernale. Donc le cardon, essayez de le mettre dans vos jardins, c'est un super légume. Il est en plus plein de bonnes choses pour la santé, et puis c'est quelque chose qu'on ne connaît pas trop, et puis qui se met aussi très bien en conserve. Donc voilà, c'est quelques exemples de légumes qu'on peut utiliser plutôt contre l'hiver.
Quand on fait des semis d'automne, est-ce qu'il y a des précautions particulières à prendre par rapport aux semis de printemps, par exemple, sur la profondeur, l'arrosage ?
Alors, les précautions, pas tellement par rapport au lieu ou bien à l'arrosage ou la profondeur, mais par contre, on choisira plutôt les espèces qui sont plutôt propices à être utilisées, semées en hiver pour produire au printemps, ou plutôt l'inverse, qui seront semées au printemps pour produire pendant l'été et l'automne. Juste à savoir que, par exemple, ce qui est semé en automne et puis qu'on récoltera au printemps, C'est des légumes qui sont aussi beaucoup plus résistants aux maladies, qui sont beaucoup plus résistants parce que le fait qu'ils doivent être résistants au froid leur donne la faculté d'être résistants à beaucoup d'autres choses. Donc c'est aussi des légumes qui sont très intéressants. Et puis ce qui est bien, c'est qu'on pourra les récolter assez tôt au printemps, donc on aura tout de suite des légumes au printemps. Donc c'est plutôt ces choses-là qu'il faut veiller.
Pour les légumes semés ou plantés justement à cette période, comment savoir quand viendra le bon moment de les récolter ?
Mais je pense qu'il y a toujours notre œil et notre instinct. On a un petit peu tendance à perdre ça aujourd'hui parce qu'on a nos téléphones et on a Internet où on va tout chercher tout de suite. Quand vous avez des légumes, regardez un peu, observez. Et puis en général, ce que votre instinct vous dit, c'est juste. Donc c'est là qu'il faut récolter. Quand l'œil dit OK, on récolte. Sur la surface du jardin, ça va devenir un petit peu quelque chose de bétonné, de craquelé si ça sèche. Donc c'est pas extra de laisser ce sol comme ça. On peut très bien, simplement, si on n'a pas trop envie de commencer de retourner son jardin en automne, on peut mettre de la paille, on peut mettre des feuilles mortes. Tout le monde a des feuilles mortes chez lui. On peut étendre un peu de compost. Si on fait du jardin, en général, on a du compost. Ou alors, on peut semer un engrais vert, qu'on va laisser tranquillement pousser pendant l'hiver et puis qu'on intégrera au sol quand les conditions le permettront.
Les jardinières.
Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. Les jardinières, c'est jusqu'à 8h. Ce matin, nous sommes en compagnie de Cathy Racine, guide de randonnée nature et jardinière à Mervelier. Découvrez ses activités sur les réseaux sociaux sous le nom de Rendez-vous avec soi-même. Ce matin, on parle de l'automne au potager, comment faire durer nos légumes, est-ce qu'il est encore possible de planter dès maintenant. Et dans la deuxième partie d'émission, on parlera notamment des petits aménagements qu'on peut créer dans notre jardin pour favoriser la biodiversité. On aura également l'occasion avant 8h de répondre à vos questions jardinage.
Oui, vous avez trois possibilités pour poser vos questions par téléphone et Cathy répondra en direct. Là, vous composez le 0901 70 20 20. Vous pouvez aussi nous envoyer une photo avec votre question en passant par le formulaire disponible sur notre site ou alors simplement nous écrire un SMS. Vous tapez jardin, un espace, votre question et votre nom et vous nous l'envoyez au 939.
Cathy, on revient mettre les mains dans la terre. On sait que c'est une bonne période pour penser à la biodiversité au jardin. Quel type de petits aménagements simples on peut installer pour donner un abri aux insectes ou aux petits animaux ?
Il y a passablement de choses à faire. On peut, si on est un peu bricoleur, on peut construire des petits abris avec des restes de planches, des choses comme ça qu'on peut visser puis mettre dans un coin du jardin. Là, ça serait plutôt adressé aux hérissons. Mais si on n'a pas trop la main bricoleuse ou si on n'a pas trop le temps, on peut aussi vraiment se servir de ce qu'on trouvera dans notre potager. Ça veut dire que, par exemple, si vous avez dans votre potager un arbuste, quel qu'il soit, et puis que vous faites une petite taille de mise en forme, comme on dit avant l'hiver, c'est pas vraiment la taille de formation, mais c'est une taille de mise en forme. On va pouvoir laisser, par exemple, ces branches, laisser un petit tas de branches bien dans un endroit, bien dans un petit coin du jardin, pour faire un abri. Par exemple, si vous coupez vos framboisiers, vous pouvez laisser sur place aussi toutes les tiges. Les framboisiers, en général, quand on commence d'en avoir dans son jardin, on a souvent beaucoup de déchets. Quand les fruits sont terminés, alors on peut laisser par exemple ces branches, on peut faire des tas de cailloux. Si vous avez des plantes vivaces, il y a souvent des tiges sèches, des choses comme ça. On peut aussi faire des petits tas, on peut faire des très grands tas ou des tout petits tas, parce qu'en fait ça servira à plein de petits mondes dans votre jardin. Il y aura les hérissons qui seront contents, mais ça sera aussi une protection contre le froid, contre la pluie, contre les prédateurs. Donc vraiment, ce que vous avez dans votre jardin, que vous ne savez pas trop quoi en faire à la fin de l'été, laissez dans des petits coins pour faire des places pour ces petits animaux.
Quel type justement d'animaux on est susceptible d'abriter, d'apercevoir si on décide de créer ces nids pour la faune ?
Alors, il y a vraiment le hérisson. Le hérisson, on le voit de plus en plus par chez nous, puis il est vraiment, vraiment très utile dans nos jardins. Il y a aussi la musaraigne, qu'on confond souvent avec les souris, puis qui est aussi très, très utile dans nos jardins. Il y a l'orvet. L'orvet, on l'oublie un petit peu, parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, quand on était petit, on voyait beaucoup, beaucoup d'orvets, puis maintenant, on n'en voit plus tant que ça. Donc, c'est aussi bien de leur faire des petits endroits où ils peuvent passer l'hiver. Les grenouilles, les crapauds, et puis tous les petits insectes, ben, tout ce qui est aussi escargots, hein, on avait parlé dans une émission des escargots de jardin qui sont pas du tout, qui sont pas du tout à éliminer dans nos jardins, donc plutôt les garder bien au chaud chez nous, enfin voilà, tous ces petites bestioles qu'on a aussi du plaisir à voir en fait.
En une phrase, Katiou, quel est l'intérêt de continuer à faire vivre et respirer son jardin même pendant l'hiver?
Alors en une phrase, je l'ai pas trouvé la phrase, même en cherchant bien. Mais en fait, ce qui se passera, c'est que si vous faites vivre votre jardin en hiver, et ben vous garderez une qualité du sol qui sera juste exceptionnelle, parce qu'en fait, votre jardin sera toujours travaillé, il y aura des rotations de culture, vous ferez des apports de compost, d'engrais, et puis surtout, il ne va pas devenir dur et cimenté, et comme ça, très, on a l'impression que c'est vraiment du béton. Et ben en fait, ça évite ça, de travailler son jardin. Puis en plus, je trouve que ça occupe un petit peu aussi pendant les soirées d'automne et puis d'hiver.
7h, 8h, les jardinières.
En première partie d'émission, Katiou, vous nous avez parlé de l'automne au potager, comment faire durer nos légumes et ce qu'on peut encore planter ou semer fin septembre. Vos conseils et astuces seront à retrouver en podcast sur notre site en cours de matinée. Il est temps de répondre aux questions de nos auditeurs. On rappelle que vous avez trois possibilités pour le faire, soit par téléphone au 0901 70 20 20. Sinon, vous pouvez vous rendre sur notre site, remplir le formulaire, nous l'envoyer avec votre question, voire aussi une petite photo que vous pouvez accompagner à la question, ou alors nous écrire un SMS. Il suffit de taper le mot jardin, laisser un espace, écrire votre question et votre nom et nous envoyer le tout au 939.
Alors, on a déjà une première question qu'on vient de recevoir à l'instant de Cécile du Bémont. Comment savoir si les courges sont mûres et bonnes à prendre?
Alors, les courges, à savoir que c'est la famille des cucurbitacées, je le dis parce que j'aime bien ce mot, cucurbitacées. Dans cette famille, on a aussi ben, les courgettes, enfin tout ce qui est concombre, etc. Ils fonctionnent tous à peu près de la même façon. La courgette, elle produit toute l'année. La courge, elle fait une grande plante et puis cette plante va développer des fleurs et ensuite va développer des courges. On va voir que ben, dans les courges, il y a plein de variétés. Donc, ce n'est pas facile de dire oui, c'est telle et telle couleur ou c'est ceci ou c'est cela. Le plus simple à faire, c'est de nouveau notre œil et notre instinct. Quand les feuilles commencent de jaunir, la courge, tout d'un coup, elle aura ce feuillage qui est beau vert, qui va devenir tout d'un coup très jaune. Et c'est à ce moment-là qu'on doit commencer de s'interroger. On commence d'arriver dans la maturité de cette courge. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder le pédoncule. C'est ce qui relie la courge à la liane. Il doit commencer de sécher. Donc ça, c'est un premier indice. Et le deuxième indice, c'est que lorsque vous faites toc-toc contre la courge, ça doit sonner très creux. Parce qu'au milieu de ces courges, il y a toujours les grains. Tout le monde a déjà ouvert une courge. Il y a des grains, puis il y a un petit peu de l'air, il y a un petit peu de l'espace. Donc, quand on toc-toc, ça doit sonner creux. Et puis là, ça veut dire que votre courge, ben, elle est mûre.
Merci, Katiou. On a encore une question qui nous vient de Gérard de Sécourt. Il nous écrit « J'ai beaucoup de framboisiers dans mon jardin. On m'avait dit que c'était des 4 saisons et que je devais les couper au pied à la fin de l'automne. Est-ce que je peux quand même laisser en place les pieds qui n'ont pas encore donné de framboises, donc les derniers venus dans l'idée ?» Il rajoute qu'ils reviennent plus vite au printemps.
Alors c'est rigolo parce qu'on appelle les framboises 4 saisons, puis en fait on appelle aussi ça des framboisiers remontants parce qu'ils donnent en fait 2 fois dans l'année. Donc ils vont produire des fruits en juin et juillet et septembre et octobre, juste pour expliquer ce que c'est que les framboisiers 4 saisons. La taille des framboisiers 4 saisons, c'est plutôt assez pratique parce que justement on va plutôt tout raser, comme ça a été dit lors de son achat, effectivement. Par contre, si on a beaucoup de place à disposition, il faut savoir que le framboisier est une plante qui s'étale beaucoup. Donc, si on a beaucoup de place, on peut sans autre laisser une dizaine de cannes. On appelle ça les cannes, les tiges des framboisiers. Mais vraiment des vigoureuses, des belles, des grandes, des vigoureuses. Et puis, par contre, on va vraiment supprimer tout ce qui est sec, abîmé. Et puis tout le reste, les petits, les fragiles, etc. Mais on va en laisser maximum 10, parce que si on en laisse plus, eh ben en fait, cette plante, elle va devoir elle va s'épuiser pendant l'hiver pour alimenter tout ce petit monde. Et puis, on n'aura rien au printemps. Donc, 10 cannes maximum si vous avez de la place. Et puis, normalement, au printemps, ces cannes devraient donner un peu plus vite des fruits. Mais voilà, ça sera pas solution miracle.
On enchaîne avec un autre message de Lydiane de Courfèvre qui nous demande la question « Que faire avec mes orchidées ? Est-ce que je coupe les tiges ? Elles ont terminé de fleurir ? Quels soins à apporter ?»
Les orchidées, ça a toujours été un grand sujet parce qu'il y a des gens chez qui ça ne fleurit pas du tout. Il y en a chez qui ça fleurit tout seul et puis il y en a des chez qui ça fleurit une fois de temps en temps. Donc, quand elles ont fini de fleurir, les orchidées, elles gardent une grande tige verte, en général, pendant plusieurs semaines. Tant que cette tige est verte, on va laisser ça comme elle est. Souvent, sur cette tige, le temps que l'orchidée refasse un cycle de réserve, parce qu'une fois qu'elles ont fini de fleurir, elles refont des réserves pour relancer une nouvelle floraison. Et souvent, sur cette tige verte, il repart une nouvelle tige de floraison. Donc, si c'est le cas, simplement, lorsque la nouvelle tige de floraison partira, donc aura quelques centimètres, on pourra couper ce qui reste sur le haut, qui va là brunir, on pourra l'enlever. Et à l'inverse, s'il n'y a rien qui se passe, cette tige qui était restée verte pendant de nombreuses semaines va venir brune, sèche. Donc là, on va couper cette tige vraiment tout en bas, le plus bas possible, bien sûr sans abîmer les feuilles, il faut vraiment faire attention, un bon petit sécateur qui coupe bien. Et puis la plante va peut-être reprendre un peu plus de temps pour refaire un cycle de floraison, mais va faire une nouvelle hampe florale, on appelle ça une hampe florale. Et puis parallèlement à ça, si vous avez des orchidées qui ont du mal de fleurir, n'oubliez pas qu'elles adorent prendre un bain tiède une fois par semaine, bien les égoutter. Une orchidée déteste avoir les pieds dans l'eau. Hein. Si on va un petit peu regarder son origine, on comprend pourquoi. C'est quand même une plante qui vit dans des régions tropicales. Et les fenêtres, un bord de fenêtre à l'est, c'est le meilleur emplacement possible. Question ensoleillement, luminosité, température, c'est l'idéal si vous avez une fenêtre à l'est.
Encore une toute petite question de Gérald de Bienne qui nous demande s'il faut tailler les gourmands des plantes de tomates.
Deux écoles, les gourmands, il y a deux écoles. Chez nous, je pense que oui, parce que on a toujours déjà du mal de récolter nos tomates. Elles viennent mûres quand il commence à faire froid, elles pourrissent, l'humidité. Je trouve que la tomate, ça reste vraiment, si on n'a pas de serre, hein, je parle, hein, que si on a une serre, c'est pas un souci. Si on n'a pas de serre, c'est toujours difficile d'avoir une récolte de tomates qui est convenable. Je trouve que d'enlever les gourmands, ça permet que les fruits grossissent plus vite. Ça permet, alors on aura peut-être un peu moins de fruits, mais par contre, ils viendront à maturité. Tandis que si on laisse vraiment nos plantes entières, elles doivent prendre énormément d'énergie pour donner dans les gourmands, dans les plantes, dans la floraison, dans les fruits. Et puis en fait, on aura plein de tomates, mais on arrivera comme maintenant, fin septembre, et puis on n'aura que des tomates vertes sur notre plante. Donc je trouve que dans nos régions, oui, c'est bien d'enlever les gourmands.
7h, 8h, les jardinières.
Et avant de se dire au revoir, on a une toute dernière question qui nous vient par SMS de Marie de Courgenay. Elle nous demande quand et comment faire des boutures de tiges de framboisier remontant.
Alors, on pourrait les faire maintenant. Le problème qu'il y a, c'est que vu que les framboisiers arrivent en fin de course, ils ont souvent pas beaucoup de petites tiges très, très jeunes. En fait, les boutures, on va plutôt faire une séparation de plantes, si on veut bien. Et il faudrait faire ça. Alors, on peut faire soit maintenant, mais il faut vraiment le faire ce week-end, diviser. Donc, on va aller creuser les plus jeunes plantes. Il n'y en a plus beaucoup des jeunes, c'est pour ça que je suis un peu embêtée. Mais si vous avez encore quelques jeunes tiges, on peut faire ça. Sinon, ça sera plutôt au printemps. Donc, on va vraiment diviser ces touffes de framboisiers et les replanter un peu plus loin.
Katiou, ce matin, vous nous avez donné des conseils, des astuces pour faire durer le plaisir du jardinage en automne. L'émission sera bien sûr disponible en podcast en cours de matinée sur notre site. Katiou, avant de vous laisser filer, rappelez-nous, qu'est-ce qu'on peut faire ces prochains jours au jardin ?
Toutes sortes. Finissez de récolter, nettoyez un peu, préparez les abris pour les petites bestioles qui sont dans vos jardins, parce que le froid va arriver quand même assez rapidement maintenant, donc c'est une des priorités à faire. N'oubliez pas de mettre un petit peu d'engrais, un petit peu de compost, enfin voilà. Préparez déjà un peu pour le printemps, parce qu'on y sera très 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 vite.
Merci Katiou, on rappelle que vous êtes guide de randonnée nature et jardinière à Mervelier. On peut suivre vos activités sur les réseaux sociaux sous le nom de Rendez-vous avec soi-même. Passez un bon week-end et à bientôt chez les jardinières.
Merci, bon week-end.
Les jardinières seront donc de retour samedi prochain dès 7h. Nous serons en compagnie d'Olivier Ribaud, pépiniériste à Porrentruy. Bon week-end Noélie.
Bon week-end Léo.
Et bon week-end à toutes et à tous.
7h, 8h. Les jardinières.